écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 10 janvier 1870, Pierre Bonaparte assassine Victor Noir. Le 11 janvier 1870, le quotidien La Marseillaise paraît encadré de noir. C'est l'organe de presse de la plus radicale des oppositions au Second Empire. Il est dirigé par le polémiste Henri Rochefort, qui tient lui-même la plume. Sur toute la largeur de la première page, il lance un appel à l'insurrection. Le titre d'abord. « Assassinat commis par le prince Pierre Napoléon Bonaparte sur le citoyen Victor Noir. Tentative d'assassinat commise par le prince Pierre Napoléon Bonaparte sur le citoyen Ulrich de Fontvieille. » La prose est fulgurante. « J'ai eu la faiblesse de croire qu'un Bonaparte pourrait être autre chose qu'un assassin. Voilà 18 ans que la France est entre les mains ensanglantées de ces coupe-jarrets qui, non contents de mitrailler les républicains dans les rues, les attirent dans des pièges immondes pour les égorger à domicile. Peuple français, est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez ? À midi, la Marseillaise est saisie, mais 145 000 exemplaires sont déjà vendus. L'affaire ressemble à un fait divers. Cependant, le meurtrier est un membre de la famille impériale. La victime est un journaliste de l'opposition. L'affaire Victor Noir devient l'image de deux Frances qui s'opposent, l'Empire contre la République. Le Second Empire entame sa 18e année. Le bilan du régime présente des aspects positifs. La victoire de Crimée marque la revanche de Waterloo. La France est agrandie de Nice et de la Savoie. L'expansion économique donne au pays une réelle prospérité. Toutefois, Napoléon III conforte son pouvoir par la dictature. La Constitution de 1852 restreint la plupart des libertés. Néanmoins, à partir de 1860, le régime s'est libéralisé. L'empereur s'achemine vers une monarchie constitutionnelle. Le 2 janvier 1870, Émile Ollivier, naguère fougueux opposant républicain, forme le gouvernement. Candidat aux élections législatives de 1869, Henri Rochefort est triomphalement élu à Paris. L'empereur l'autorise à rentrer de son exil bruxellois pour exercer son mandat parlementaire. Bien décidé à démolir le régime, il fonde la Marseillaise, dont le premier exemplaire paraît le 19 décembre 1869. Résolument socialiste, le journal attaque chaque jour le souverain et sa famille. La Marseillaise emploie un jeune journaliste de 21 ans, Yvan Salomon, connu des lecteurs sous le pseudonyme de Victor Noir. Il tient la rubrique Boulevard et Faubourg. C'est un grand garçon, robuste, aux cheveux noirs et crépus, toujours riant et plaisantant. Originaire d'Attigny, dans les Vosges, il est issu d'une famille juive convertie au catholicisme. Victor Noir est lié au jeune publiciste Pascal Grousset, qui lui demande d'être son témoin pour une affaire d'honneur qu'il oppose au prince Pierre-Napoléon Bonaparte. Personnalité turbulente et violente, le fils de Lucien Bonaparte mène une existence mouvementée. Il vit modestement à Auteuil. De temps à autre, il envoie un article au journal bonapartiste « L'avenir de la Corse ». Sa prose est commentée sans indulgence par le quotidien républicain de Bastia, La Revanche, dont Pascal Grousset est le correspondant parisien. Les attaques répétées de La Revanche font perdre patience à Pierre Bonaparte, qui adresse à l'avenir de la Corse une lettre dans laquelle il traite ses adversaires de nullité, de lâches Judas, d'escargots rampant sur le bronze pour rayer de leur bave. ou encore d'infimes folliculaires. Trois jours plus tard, le directeur de la revanche, Lucien Tomasi, bâtonnier de Bastia, répond vertement. Hors de lui, Pierre Bonaparte provoque en duel Henri Rochefort. Paschal Grousset fait de même avec Pierre Bonaparte. Il choisit ses témoins. Ulrich de Fontvieille, un ancien officier de 36 ans, et Victor Noir. Les deux hommes se présentent au domicile de Pierre Bonaparte. Ulrich de Fontvieille s'adresse à lui. « Monsieur, mon ami Victor Noir et moi, nous venons de la part de Paschal Grousset remplir une mission que cette lettre vous expliquera. » Et il lui tend la missive. Pierre Bonaparte s'en empare, il s'approche de la fenêtre et lit. La suite est confuse. Écoutons le récit du prince. « Le plus grand me frappe vivement à la joue gauche d'un coup de poing, et je vis le plus petit s'armer d'un pistolet qu'il avait tiré de sa poche. Il a cherché à l'armer en s'appuyant sur la main gauche dans laquelle se trouvait l'étui du pistolet. Je me suis reculé de deux pas. J'ai tiré de ma poche droite un pistolet à 5 coups que je porte habituellement sur moi. J'ai tiré 1 coup sur le grand. J'étais à 2 ou 3 mètres de lui. Il s'est retourné immédiatement et a quitté le salon par la salle d'armes par laquelle il était entré. Tout cela n'a duré qu'un instant. Il ajoute que le second individu s'est enfui. Victor Noir descend l'escalier en chancelant. Il se cogne contre la porte cochère, trébuche et tombe sur les genoux et les mains sur le trottoir. Les témoins affirment que son visage est aussi blanc que sa chemise. Il est transporté chez un pharmacien voisin. Un médecin accourt. Il constate le décès du jeune homme. Le préfet de police ordonne l'arrestation du prince. Au matin du 12 janvier 1870, il fait froid et il pleut. Cependant, 200 000 Parisiens rejoignent la maison de Victor Noir à Neuilly. Vers 13 heures, Henri Rochefort apparaît. Il est acclamé. Pourtant, il offre une image consternante. Il balbutie d'un ton hésitant que le cortège ne doit pas traverser Paris pour rejoindre le cimetière du Père-Lachaise, mais gagner celui de Neuilly, comme le souhaite le gouvernement. La foule manifeste son mécontentement. Louis Noir, le frère de Victor, paraît alors à la fenêtre. Avec une grande dignité, il précise que la famille souhaite que le défunt soit inhumé à Neuilly. Le corbillard arrive, le cercueil couvert de lilas blanc y est placé, le cortège s'ébranle, il parvient avenue de Neuilly, là, un choix s'impose. Tourner à gauche vers Paris et c'est la Révolution, tourner à droite vers le cimetière de Neuilly et renoncer à toute action immédiate. Louis Noir s'interpose. Bouleversé, il s'écrie « Vous oubliez le respect du haut mort, enterrons-le aujourd'hui, demain nous le vengerons. » Le seul espoir des Républicains est Henri Rochefort. Tous se tournent vers lui, il est blême. Sa tête oscille, il s'évanouit. En effet, le cortège poursuit son chemin vers le cimetière de Neuilly où Louise Michel rend un ultime hommage à Victor Noir. Le 27 mars, les magistrats de la haute cour acquittent Pierre Bonaparte, qui est toutefois condamné à verser 25 000 francs de dommages et intérêts à la famille du défunt. Napoléon III ordonne à son cousin de vivre à l'étranger. Il se retire dans les Ardennes belges, à Herbemont. Victor Noir est aujourd'hui inhumé au cimetière du Père-Lachaise où sa dépouille a été transférée. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, 3 livres ». Ça sera 4 exceptionnellement aujourd'hui, préparé par Emmanuel. C'est le groupe Eagles qui nous accompagne durant cette émission. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, un titre de 1976, « Hotel California ».
up through the air. A bed in the distance saw a shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. And she lit up the candle, she showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say, Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. And they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit of our own device. And in the master's chambers, gathered for the feast, stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Check out anytime you like, but you can never leave.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, quatre, je vous ai dit exceptionnellement aujourd'hui, qui a été préparé par Emmanuel, quatre livres d'une même collection, Terre de France, publiée aux éditions Les Presses de la Cité. Nous commençons par le regard de Jeanne. Jeanne, orpheline, placée dans une ferme en Corrèze, fuit ce destin, l'ignorance, la violence et la servitude. Le hasard lui fait croiser le chemin de Florimond, qui la prend sous son aile dans sa roulotte. Il lui enseigne son art, celui magique et naissant de la photographie en ces années 1860. De foire en village, l'homme immortalise famille, demeure et paysage et tient boutique l'hiver à Clermont-Ferrand. Jeanne tisse avec son mentor un lien quasi filial qui révélera leur part secrète. Et d'apprentissage en rencontre, Jeanne grandit, son regard s'affine jusqu'à devenir elle-même photographe. C'est à la fois le monde des foires du XIXe siècle, mais aussi l'art naissant de la photographie qui sont retracés dans ce roman. Le regard de Jeanne, c'est signé Jean-Guy Soumy dans la collection Terre de France aux éditions Les Presses de la Cité. Un voyage nommé Désir de Frédéric-Sophie Braise. Nous sommes en 1917. Vincenzo, soldat italien, arrive dans un village haut perché des Alpes. Là-haut, trois amis, Péroline, mère de famille, sans nouvelles de son époux, Anne-Céleste, qui n'a reçu qu'une lettre bien sibylline de son fiancé sur le front, et Rose, qui doit veiller sur sa fratrie orpheline. À elle d'abattre le travail, et le voilà, celui qui va les délivrer d'un mari violent, d'un prêtre plutôt malfaisant et du poids du devoir, celui qui est à l'origine du plus rocambolesque vol de l'histoire, le vol de la Joconde, en août 1911 au musée du Louvre. Un voyage nommé Désir de Frédéric-Sophie Braise, c'est dans la collection Terre de France, aux éditions Les Presses de la Cité. Une vie de château de Madeleine Manciette-Berthaud en 1943. En Gironde, après un accès de violence paternelle de trop, Céline fugue et arrive à un château magnifique. Or, ce château, c'est l'école de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, une ancienne prison devenue école où règne une discipline de fer. Elle va y vivre quelques années, séparée de sa mère adorée. Ce château va devenir le centre de ce roman. Une vie de château de Madeleine Manciette-Berthaud dans la collection Terre de France aux Presses de la Cité. Et pour terminer cette chronique, Tête de lune de Gilbert Borde, nous voici replongés dans le confinement lié à la Covid-19. Deux enfants délaissés, Tête de lune surnommée ainsi en raison de sa tête toute ronde et de son embonpoint, élevé dans une famille d'accueil, et Salomé, empli d'espièglerie, vont s'occuper d'un vieux chien, Clam, et décident de le ramener à son maître, vieux marin, échoué dans une maison de retraite. Et pour cela, ils vont traverser le plateau de Mille Vaches. Nous retrouvons ces terres corréziennes qui sont chères à Gilbert Borde. Tête de lune, c'est dans la collection Terre de France, aux Presses de la Cité. Merci à Emmanuel d'avoir préparé cette chronique. Merci à Lucas d'avoir réalisé cette émission. Et nous nous séparons en chanson avec le groupe Eagles. Nous écoutons un titre de 1972, « Take it easy ».
Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.
Thank you.